Vous écoutez RTL. RTL Midi.
Stéphane Carpentier.
Bénédicte Tassard.
C'est Marlène Schiappa, comme promis, qui a pris place dans le studio de la rue Bayard de RTL, secrétaire d'État chargée d'égalité entre les femmes et les hommes. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre. On va écouter évidemment et vous pourrez dialoguer avec les auditeurs et auditrices sur les violences sexuelles qui malheureusement font l'actualité depuis maintenant plusieurs semaines. Demain, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et Emmanuel Macron présentera en fin de matinée à l'Élysée un plan de sécurité sexuelle. Avant d'aborder tous les détails, est-ce que selon vous aujourd'hui, quelque chose est en train de changer? Est-ce qu'il y a une vraie prise de conscience?
Oui, complètement. Je pense qu'on a beaucoup parlé de mouvement de libération de la parole. Je dirais que c'est pas seulement ça, c'est une libération de la parole avec surtout une vraie dynamique de l'écoute. Enfin, la société est prête à entendre ces femmes qui, depuis longtemps, parlaient des violences sexistes et sexuelles qu'elles subissaient.
Voilà, ces femmes qui appellent de plus en plus, d'ailleurs, le fameux numéro 3919, on
absolument,
l'a vu hein, cette semaine, il est pris d'assaut.
Plainte de plus en plus également, plus de 30% de plaintes.
Ces derniers temps avec ce coup de fil. On parlait du nouveau hashtag dans le journal de 12h30, Soyez au rendez-vous, qui est lancé sur les réseaux sociaux par des féministes. Est-ce que vous l'êtes au rendez-vous, vous?
Alors, moi, je pense qu'on est en avance sur le rendez-vous, parce que le président de la République était le seul pendant la cause nationale de son quinquennat, et il était le seul à donner des larges temps de parole dans les meetings à des femmes comme moi qui voulaient porter ce sujet de la lutte contre les violences sexuelles. Donc, de longue date, le président de la République fait partie de ceux qui n'ont pas été surpris par l'ampleur de ce phénomène et de ce mouvement de libération de la parole.
Alors, avec ce hashtag « Soyez au rendez-vous », ces féministes réclament de l'argent et des mesures concrètes. Est-ce que c'est cela qu'on va voir demain à l'Élysée? Des mesures concrètes.
Je vais pas vous faire les annonces du président de la République.
Non, mais vous, qu'est-ce que vous attendez
du président de la République? Moi, je suis pas en position de militante féministe. Moi, j'attends pas quelque chose particulièrement. Moi, je conduis des politiques publiques depuis 6 mois maintenant, sous l'impulsion du président de la République et du Premier ministre. Il y a évidemment des mesures concrètes. On en a déjà annoncé certaines. La grande loi citoyenne contre les violences sexistes et sexuelles, les campagnes de communication, réseaux sociaux et télévision à partir de la semaine prochaine, la formation des professionnels. J'étais encore hier avec la MIPROF, la mission interministérielle de protection des femmes, qui formait des infirmières et des infirmiers, des dentistes, des policières et des policiers municipaux à identifier et à lutter contre les violences sexistes et sexuelles.
Justement, il faut être plus près des victimes, c'est ça qu'il faut faire dès que l'agression est connue?
Il faut d'abord, je pense, sensibiliser pour éviter le plus possible à ces violences sexistes et sexuelles de se produire. C'est pour ça qu'on fait de la sensibilisation, de la formation, de la communication, de l'éducation aussi. Et il faut ensuite les prendre en charge immédiatement. Et là, le gouvernement met en œuvre des politiques publiques. Mais il y a aussi un appel à la mobilisation citoyenne pour que chacune et chacun intervienne et ne laisse pas passer les violences sexistes et sexuelles de la plus petite à la plus grave.
On a évoqué beaucoup ces derniers temps la verbalisation du harcèlement de rue. Est-ce que vous le souhaitez ?
Évidemment, puisque c'est moi qui le porte au gouvernement. Donc bien évidemment, c'était un engagement de campagne du président de la République. Je pense que c'est très important que les lois de la République française inscrivent noir sur blanc qu'il est interdit d'intimider des femmes dans la rue. Le harcèlement de rue, ça a des conséquences sur la vie professionnelle des femmes. Très direct, moi je ne vois pas comment les femmes peuvent briser le plafond de verre et négocier des augmentations quand elles viennent de passer 45 minutes à craindre pour leur intégrité physique dans les transports en commun, par exemple.
Ça va pas être facile à mettre en place quand même.
Non, ça va pas être facile à mettre en place, je vous l'accorde. C'est pour cette raison qu'on a créé un groupe de travail avec 5 députés de tout groupe politique qui sont en train de plancher depuis déjà quelques mois pour d'abord définir le harcèlement de rue ou l'outrage sexiste selon le terme qui sera retenu et pour travailler avec les forces de l'ordre, de la police, de la sécurité du quotidien comme l'a annoncé le ministre de l'Intérieur pour faire en sorte que ces forces de l'ordre puissent repérer et mettre effectivement des amendes en flagrant délit.
Je reviens à l'accompagnement de ces victimes. Est-ce que la généralisation de la pré-plainte, c'est prêt? C'est effectif.
Alors ça fait partie des choses que le président de la République évoquera sans doute demain, s'il le souhaite, au moment de sa prise de parole. Mais effectivement, c'est un axe sur lequel nous travaillons avec la ministre de la Justice et avec le ministre de l'Intérieur pour faire en sorte de faciliter cette prise de parole, pour que la prise de parole qu'on a saluée des femmes ne se cantonne pas aux réseaux sociaux, mais qu'on puisse véritablement judiciariser et assurer une véritable sanction sociétale et surtout judiciaire aux auteurs de violences sexuelles.
Si vous travaillez dessus, ça veut dire que le président va l'annoncer, non ?
Bon, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous faire les annonces, on ne va pas prendre point par point, je ne vais pas vous faire les annonces là avant, mais vous savez que c'est une piste de travail sérieuse, effectivement.
On a plein de questions à vous poser, évidemment, Marlène Schiappa. On va écouter les auditeurs dans un instant. On les attendait maintenant au standard, au 3210, à la fois si vous avez été des victimes de violences sexuelles, si vous avez des avis, des interrogations. C'est votre antenne, votre radio. Donc 3210, le hashtag, bien sûr, RTL Midi pour Twitter, et puis la page Facebook RTL Les Auditeurs ont la parole. Marlène Schiappa est avec vous ce midi. Nous sommes vendredi, à tout de suite.
Au 3210, RTL vous donne la parole.
RTL Midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Bénédicte Tassard.
Stéphane Carpentier.
Vous avez la parole au 3210 et avec nous Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et nous prenons au téléphone Bruno. Bruno, vous êtes gendarme, vous nous appelez de Seine-et-Marne et vous voulez nous parler de votre épouse.
Oui, tout à fait. En fait, il se trouve que donc je suis gendarme et mon épouse, étant plus jeune, a été violée par un membre de sa famille. En tant que professionnel, j'ai pu voir beaucoup de choses qui m'ont choqué au cours de la procédure suite à la plainte de mon épouse, notamment dans le suivi et le traitement qu'elle a eu en tant que victime. Alors, ce ne sont pas des problèmes vis-à-vis d'elle en particulier, mais on n'a eu aucune difficulté pour déposer plainte. Bien que c'était dans un commissariat, c'était un petit peu compliqué parce qu'il fallait expliquer les motifs de sa plainte devant tout le monde, donc c'était un petit peu embêtant. Mais après, c'est une fois que la procédure a été lancée, c'est les allées et venues qu'il a fallu faire au niveau des experts psychologues pour déterminer son préjudice, pour déterminer la compatibilité de son récit avec les faits qu'elle dénonçait. Et franchement, là, j'ai vu des trucs qui, moi, en tant que professionnel, m'ont vraiment choqué, quoi. Des choses, d'ailleurs, que je retrouve plus ou moins quotidiennement dans mon travail quand je suis amené à traiter des enquêtes de cette nature. En l'espèce, c'est que je m'aperçois, et c'est le cas qui s'est posé, c'est qu'on a, on fait bien souvent appel à des psychologues, alors je ne dis pas que les psychologues font mal leur travail, mais qui ont le statut d'experts et qui reçoivent les victimes ou questionnent les victimes de façon qui est... c'est vide, quoi. Mmh. Voilà, c'est vide. On parle de faits qui sont compatibles, de récits qui est compatible avec les faits reprochés. Et bien souvent, on se retrouve avec des rapports ou des conclusions qui sont très subjectives, qui manquent beaucoup d'objectivité. Moi, par exemple, pour le cas de ma femme, je me suis retrouvé dans une salle d'attente avec la musique à fond. Voilà, il y avait la radio à tue-tête. L'entretien a duré 15 minutes. Et quand on a reçu le rapport de la psychologue, c'était oui, les faits sont compatibles, etc., etc. Enfin, c'était un rapport d'une page et demie, et qui, en fait, il n'y avait rien dedans, quoi. Il n'y avait rien dedans. Donc, je me pose beaucoup de questions sur la formation des experts, qu'ils soient psychologues ou psychiatres, mais essentiellement psychologues, dans le cadre des violences pour les enfants, pour les femmes victimes d'agressions sexuelles, quoi.
Bruno, on écoute Marlène Schiappa, qui vous a écouté, vous, évidemment, longuement sur votre témoignage.
Oui, bonjour Bruno. D'abord, bonjour. Je vous remercie vraiment pour votre témoignage qui est très éclairant à plusieurs titres. D'abord parce que vous-même, vous êtes gendarme, donc vous avez un œil aussi professionnel sur ce parcours qu'a vécu votre épouse. Et ensuite, parce que vous nous montrez aussi pleinement qu'on n'est pas là du tout dans une guerre des sexes, contrairement à ce qui a pu être dit, mais que très souvent, les hommes se tiennent aux côtés des femmes victimes pour les accompagner et pour les aider. Donc merci pour ça. Pour vous répondre plus précisément, je partage votre constat. Le constat que nous formulons, c'est qu'actuellement, la situation n'est pas satisfaisante. Il n'y a que 1% des violeurs qui sont condamnés in fine en justice. Ça veut dire que nous devons tout améliorer, toute la chaîne qui mène à la condamnation du début à la fin. C'est pour ça que nous sommes en train de faire une loi citoyenne. C'est pour entendre ce type de témoignages et de retours très concrets et très précis qui vont nous permettre d'agir sur un certain nombre de points. Sur la formation, on a déjà commencé à travailler avec la mission interministérielle de protection des femmes, mais on a effectivement encore de gros progrès à faire pour faire en sorte que toute la chaîne soit bienveillante à l'égard des femmes victimes qui viennent parler et que ça ne les décourage pas de venir parler et de venir judiciariser les viols qu'elles ont vécus.
Oui, complètement, je suis d'accord avec ça. Après, je pense pas que dans les unités de police ou de gendarmerie en France, les femmes soient découragées. D'accord, moi je ne connais aucun. Voilà, moi je ne connais aucun enquêteur qui découragerait une femme de témoigner.
Je voulais dire, pardon, je précise, je voulais dire découragée par l'ampleur de la procédure. La plupart du temps, elles sont bien accueillies. Et d'ailleurs, il y a une étude de la Fondation Jean Jaurès qui est sortie il y a quelques semaines, qui nous montre que pour la moitié de la population, le réflexe, c'est la police, c'est les forces de l'ordre. Donc moi, je crois vraiment très fort au lien de confiance avec les forces de l'ordre. Je veux dire qu'elles peuvent être découragées par l'ampleur de la procédure et par le fait de devoir répéter plusieurs fois les faits qu'elles-mêmes ont déjà vécu. C'est ce que je voulais dire.
Oui, oui, complètement. Après, je pense que le fait de répéter plusieurs fois les faits qu'elles ont subis ne sont pas dus exclusivement au service d'enquête. Hein. Il y a aussi beaucoup la famille, la pression familiale, puisque nous, c'est ce qui s'est passé. On a aussi beaucoup d'intervenants extérieurs qui insistent là-dessus, parce que nous, au niveau des enquêtes, de toute façon, pour tout ce qui concerne les violences sexuelles, ce sont la plupart du temps des auditions filmées. Donc la victime ne répète son témoignage qu'une seule fois. Et puis pour tout le reste de la procédure, elle n'a pas à le refaire, à part devant un psy ou un psychiatre.
Et au moment du procès.
Et au moment du procès, oui et non, puisque pour certaines infractions de mineurs. Moi, je pense essentiellement aux mineurs victimes. De toute façon, au moment du procès, il y a un enregistrement vidéo qui est fait de son audition. Donc,
Alors, ça dépend, parce que là, je pense que vous parlez des cas dans lesquels les mineurs parlent des faits au moment où elles sont mineures. Après, quand elles sont adultes, et là, on travaille aussi là-dessus, justement avec l'allongement des délais de prescription, il peut y avoir des cas où même une fois devenues adultes, elles doivent re-répéter des faits qu'elles ont vécus il y a des années au moment du procès, ce qui est normal puisque c'est la procédure de l'instruction, mais ce qui n'empêche pas le fait que ce soit douloureux pour les victimes d'en parler, d'où la nécessité de vraiment former toutes les personnes qui vont les interroger et qui vont mener ces suites de discussions, d'échanges, d'interrogatoires et ensuite de réquisitoires.
Oui, oui, vous avez parfaitement raison. Après, moi, j'émets quelques réserves sur les lois, parce qu'on est un petit peu au courant des lois qui sont dans les tuyaux. J'émets quelques réserves en tant que professionnel sur le délai de prescription, par exemple pour les femmes victimes d'agressions sexuelles.
L'allongement des délais de prescription, c'est les crimes sexuels. Hein. Donc, ce ne sont pas les agressions sexuelles, ce sont les viols.
Oui, oui, oui. Non, mais j'emploie un terme générique, en fait. Moi, je vois, par exemple, dans le cas de mon épouse, donc elle a une autre membre de sa famille qui a été violée par cette même personne, qui n'a pas pu déposer plainte au moment des faits, parce que le délai de prescription était passé 3 ans. Moi, je pense qu'un délai de prescription de 5 ans supplémentaires serait largement suffisant et non pas 10 comme on en entend parler. Pour plusieurs raisons, parce que 10, c'est un peu compliqué, nous, déjà en tant que professionnels, au niveau de la procédure pénale. Parce qu'il faut bien savoir que... Je ne parle pas de femmes qui sont violées au cours de leur majorité. Moi, je parle surtout d'enfants, de mineurs victimes.
D'accord.
On se retrouve avec des témoignages qui ont lieu, qui nous parviennent quasiment 20 ans après les faits, ou dans beaucoup de cas, de toute façon, faut pas se cacher. Hein. Pour un mineur victime qui dénonce un viol, une femme qui le dénonce à 35 ans, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et on n'a plus d'éléments matériels sur lesquels travailler, on n'a plus de base. On se retrouve avec à devoir interroger des témoins, alors des témoins qui sont soit décédés, qui ont disparu de la circulation, qui ont déménagé, qui ont changé de numéro de téléphone. Ce sont des procédures longues, lourdes et qui prennent beaucoup de temps.
Comment améliorer les choses, Marlène Schiappa, là-dessus ?
Alors, d'abord, je voudrais dire que ce n'est pas uniquement parole contre parole, puisqu'il y a, comme vous le savez, ce qu'on appelle un faisceau d'indices concordants, c'est-à-dire que les enquêteurs vont devoir mettre au jour la probabilité, les concordances éventuelles d'agenda, d'autres témoignages. Vous l'avez rappelé dans le cas de votre épouse, il y avait plusieurs victimes. Quand les victimes sont plusieurs à déposer des plaintes, ça fait partie de ce qu'on appelle ce faisceau d'indices concordants. Ensuite, en ce qui concerne l'allongement des délais de prescription, j'entends très bien que vous nous parliez du cas de l'ami, de la personne, de votre épouse. Mais allonger de 5 ans à 10 ans, ça ne change pas grand-chose, si ce n'est qu'on ouvre la possibilité à d'autres personnes également de déposer des plaintes. Puisque la question de la preuve, qui est une vraie question, je ne l'élude pas, la question de la preuve, que ce soit 25 ans ou 30 ans après le viol, hélas, elle reste tout aussi difficile à apporter, me semble-t-il.
Voilà, échange enrichissant entre Bruno, donc gendarme, et qui connaît bien les situations dans son quotidien, et la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Il y a beaucoup d'appels, Marlène Schiappa, pour vous, donc on se quitte un instant et on se retrouve tous ensemble au 3210 3210.
Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi. RTL Midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Bénédicte Tassard.
Stéphane Carpentier.
Et vos appels au 3210 sur les violences sexuelles. Nous sommes toujours avec Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et nous accueillons Frédéric au téléphone. Bonjour.
Oui, bonjour. Je vous remercie de prendre mon appel.
Bonjour.
En fait, je venais un petit peu apporter de l'eau au moulin, même si les témoignages que vous avez eus sont déjà excessivement prenants. Voilà, en fait, ma fille a été victime d'un viol par un ami de la famille. Et en fait, elles sont trois concernées. Il y en a une qui, à l'époque, avait 12 ans, une autre de 13 ans et ma fille de 15 ans. Et en fait, je voulais simplement, donc je ne veux pas revenir sur tout ce qui peut se passer, etc., et tous les traumatismes, etc. Je veux simplement revenir sur deux choses. La première, c'est l'accompagnement quand on va porter plainte, qui est très compliqué. Très compliqué parce qu'on est quand même allé dans un commissariat spécialisé normalement pour les mineurs. Excusez-moi, j'ai la voix qui tremble. Mais
bien sûr. Prenez votre temps.
En fait, votre émission était tellement prenante et puis on est tellement concernés que finalement j'ai dit moi aussi je veux vous expliquer ce qui se passe quand on va dans un commissariat. Donc on était avec des gens qui sont normalement spécialisés pour les mineurs. Ma fille amie a été très traumatisée, elle n'a rien voulu nous dire sur le coup. Il nous a fallu 4 mois pour comprendre qu'il y avait eu un souci et essayer de creuser. Nous avons compris au bout de 6 mois donc qu'elles étaient 3. Il a fallu ensuite les aider à passer le traumatisme, à accepter de voir un psy puisqu'elles ne voulaient voir personne, à accepter de parler. Et suite à tout cela, évidemment, c'est un chemin assez long. Et nous avons réussi enfin à porter plainte. Quand nous sommes arrivés, la première question que la police m'a posée, puisque j'ai été prise à part, ce qui est logique, ça a été « Mais madame, comment ça se fait que vous mettiez un an à venir ?» C'est des mineurs, vous auriez dû venir tout de suite. Et c'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ma fille ne me faisait plus confiance, elle était très braquée. Il a fallu reprendre confiance avec elle. Je ne pouvais pas me permettre de reperdre sa confiance et d'aller porter plainte alors qu'elle n'en était pas prête. Ma fille, évidemment, il n'y avait plus de preuves physiques. Donc il a fallu... je comprends qu'il soit obligé de prêcher le faux pour avoir le vrai, mais c'est quand même très dur. Elle avait mis plus d'un an à accepter ce qui s'était passé. Elle était encore très fragile et on est sorti de là absolument effondré à nouveau. Et là, ça a été un travail très long à nouveau pour la reconstruire. Donc je voulais signaler ça. À tel point que les deux autres filles n'ont pas encore porté plainte quand elles ont su comment ça s'était passé pour nous. Et puis la deuxième chose que je voudrais signaler aussi simplement, c'est qu'effectivement, c'est pour revenir sur à quel âge potentiellement on peut considérer que les enfants sont, comment oser dire ça, mais sont d'accord avec l'acte sexuel. Il y en avait une de 11, une de 13, une de 15. Je vous ai beaucoup entendu parler, Madame Schiappa, de l'âge légal auquel il faudrait peut-être repositionner effectivement les faits. Personnellement, enfin, avec les cas qui nous sont arrivés, très sincèrement, 12 ans, 13 ans et même 15 ans, elle ne se rendait pas compte de ce qui allait se passer. Elles se sont complètement fait... embrigadées par cette personne. Elles se sont fait manipuler complètement. À 15 ans, on est naïf. 15 ans, on est jeune. 15 ans, on n'a pas de relations sexuelles. Enfin, peut-être certaines filles, mais je veux dire, on est encore dans des générations où elles ne sont pas prêtes à ça. Et quand j'entends que ça peut être potentiellement réévalué, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous en conjure, essayez de voir ce qu'on peut faire pour réévaluer cet âge à 15 ans.
Frédéric, Marlène Schiappa vous répond et s'entretient avec vous.
Merci d'abord pour tout ce que vous prenez le temps de nous expliquer, parce qu'on comprend bien évidemment à quel point c'est difficile ce que vous nous expliquez. Je voudrais peut-être commencer par éclaircir un malentendu. Il n'a jamais été question d'abaisser la majorité sexuelle. Ça n'est pas la même chose. Il y a deux choses différentes. Si je peux prendre peut-être 2 minutes pour l'expliquer, parce que c'est un peu technique. En droit français, il existe une majorité sexuelle qui est fixée à l'âge de 15 ans. On considère que toute personne majeure n'a pas le droit d'avoir un rapport sexuel avec une personne qui a moins de 15 ans. Néanmoins, le viol est défini en droit français par le rapport sexuel obtenu sous l'effet de la surprise, de la menace ou de la contrainte avec violence. C'est-à-dire que quand vous n'arrivez pas dans le procès à prouver l'effet de surprise, l'effet de menace, etc. Il n'y a pas de viol et c'est requalifié en atteinte sexuelle. Donc ce que nous créons, c'est un seuil de présomption de non-consentement, donc c'est une mesure de protection pour faire en sorte que jamais on interroge les enfants de 11 ans, 12 ans, 13 ans pour savoir s'ils avaient pu être consentants ou pas consentants avec un rapport sexuel avec un majeur. Donc c'est un nouveau seuil que nous ajoutons, nous n'abaissons pas du tout la majorité sexuelle, nous la maintenons et nous ajoutons au contraire, nous renforçons la protection pour les enfants. En ce qui concerne le sujet de l'âge, nous faisons une loi citoyenne, ça veut dire que nous mettons tout sur la table, nous ne décidons pas par surprise et nous n'informons pas les citoyens, nous faisons participer les citoyens. Donc à cet égard, merci encore une fois pour tout ce que vous venez de partager avec nous. L'âge de 13 ans est recommandé par le Haut Conseil à l'égalité, l'âge de 15 ans est recommandé par un certain nombre d'experts, de psychiatres. Nous nous regardons l'âge de la maturité affective, nous regardons l'âge médian en Europe. Et enfin, il faut savoir que s'il y a une présomption de non-consentement, ça veut dire que quelqu'un qui a 14 ans, 3 mois, qui aura un rapport sexuel consenti dans le cadre d'une relation amoureuse avec un majeur de 18 ans et 2 jours, le majeur de 18 ans et 2 jours, si tant est que les parents déposent une plainte, pourra faire de la prison pour viol, puisqu'il y aura présomption de viol. Donc c'est ça qui est très difficile. Au Canada, par exemple, ils ont choisi de prendre en compte l'écart d'âge ou l'autorité. Ce que vous avez décrit, il me semble que c'était vraiment de l'emprise. Et je partage tout à fait avec vous le fait de dire que quand il y a une personne qui a autorité, qui est un adulte ou qui est en prise, qu'on est en dehors de ces cadres consentis, bien évidemment, les enfants ne sont pas consentants et les viols doivent être punis comme tels, comme des crimes, comme de la pédocriminalité.
Frédéric, restez avec nous. On va écouter le témoignage de Fleur. Bonjour Fleur.
Bonjour.
Vous nous appelez de Caen ?
Oui.
Eh ben allez-y, parlez. Vous voulez poser des questions à Marlène Schiappa, peut-être ?
Alors, en tout premier point, je rejoins ce que disait la personne avant moi. C'est-à-dire que le consentement, c'est pas avant 15 ans, c'est pas possible. On peut pas. C'est impensable. Vraiment impensable. J'ai été moi-même agressée.
Mmh. Et enfant ?
Enfant. La première agression, je n'avais pas 11 ans et ça a duré jusqu'à mes 15 ans. Et en fait, il faut savoir qu'à partir de 15 ans, on a assez de maturité pour comprendre ce qui se passe. À 13 ans, on ne peut pas comprendre. Entre, comment je pourrais dire, entre le savoir, la connaissance et l'expérience, il y a un monde. Il y a complètement un monde. Donc, pour moi, c'est 15 ans, pas 13. C'est pas possible. En France, la victime doit apporter la preuve qu'elle a été agressée. Donc, à 13 ans, ça sera une fois de plus la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et on privilégie l'agresseur.
Fleur, on va vous laisser respirer parce qu'on entend évidemment l'émotion dans votre voix. Marlène Schiappa, c'est encore
oui,
un témoignage.
Oui, je pense qu'il me semble important de répéter et de rappeler. D'abord, évidemment, merci de prendre l'énergie et de prendre sur vous pour rappeler et pour partager ce que vous avez vécu. On sait à quel point c'est difficile de le faire, donc merci de contribuer à cette discussion. Je voudrais véritablement rappeler ce que je viens de dire. Je pense que vous avez écouté. C'est-à-dire que nous ajoutons une protection. Actuellement, quand vous avez 11 ans, 12 ans, vous devez apporter la preuve que vous avez été violé. Actuellement, c'est le cas. Nous rajoutons une protection. Nous ajoutons le fait qu'il n'y aura plus jamais ce type de débat. Plus jamais, une fois que cette loi aura été votée, on demandera à un enfant de 12 ans, de 13 ans, d'apporter la preuve du viol. Ensuite, une fois de plus, je voudrais rappeler que dans le cadre d'un procès, ça n'est pas parole contre parole. Il y a une enquête, il y a une instruction, il y a de nouveau ce faisceau d'indices concordants, ces témoignages qui sont apportés. Parfois, trop souvent, les viols ne sont pas condamnés. Je rappelle qu'actuellement, ça n'est que 1% des violeurs qui sont condamnés, des agresseurs sexuels. C'est ça que nous voulons changer. C'est pour ça que nous voulons faire en sorte de faciliter les plaintes et de faciliter ce parcours et de faciliter les procès pour qu'il n'y ait pas de longs débats pour savoir si un enfant a été consentant. Mais je rappelle peut-être que si on retient l'âge de 13 ans ou de 15 ans, ça ne veut pas dire qu'au-dessus de cet âge-là, il y aura consentement systématique. Il me semble important de le rappeler parce que j'ai l'impression, en entendant, que ça veut dire qu'on est en train de faire une loi pour dédouaner au contraire les violeurs et dire au-dessus d'un certain âge non c'est bon c'était consenti. Ça n'est pas le cas, c'est l'inverse que nous faisons. Nous faisons une présomption de non-consentement. Donc ce que nous faisons, ça n'est pas un âge au-dessus duquel l'enfant sera considéré comme étant consentant, pas du tout, en aucun cas. Ce que nous faisons, c'est l'inverse, c'est un âge en dessous duquel jamais il n'y aura plus débat comme on a pu l'entendre dans les derniers mois. Jamais on considérera qu'un enfant a pu être consentant.
Voilà, les choses sont dites et bien claires avec Marlène Schiappa sur RTL, secrétaire d'État chargée d'égalité entre les femmes et les hommes. Restez avec nous.
Les auditeurs ont la parole
dans RTL Midi.
RTL Midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Bénédicte Tassard,
Stéphane Carpentier.
Demain, le président Emmanuel Macron annonce des mesures contre les violences sexuelles et sexistes. Nous sommes avec Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et nous accueillons au téléphone Nathalie. Bonjour Nathalie.
Bonjour à vous trois. Bonjour.
Bonjour. Vous voulez nous parler du harcèlement sexuel au travail?
Voilà. En fait, j'avais témoigné au mois de septembre auprès d'APL, il y a un petit moment. J'étais dans un état un petit peu impitoyable. Donc voilà, c'était simplement pour dire à toutes les victimes que bah, il faut tenir, faire les démarches. Voilà, c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas. Là, je vous appelle parce que en fait, j'ai envie de vous dire que voilà, j'ai été reconnue en accident du travail. Et voilà, ça a été le déclencheur parce que voilà, une reconnaissance. Voilà. Donc suite à ça, et ben, les démarches se font. Donc j'ai eu la. En fait, il y a eu une enquête interne que en fait l'inspecteur du travail avait demandé. Ça a été fait. J'ai reçu un courrier il y a à peine 2 jours en disant que l'harcèlement sexuel n'a pas été retenu, malgré qu'il a avoué qu'il y a eu quand même 2 agressions sur mon lieu de travail. C'est pour ça que j'ai relaté ça auprès de ma direction. Donc voilà, mais ça avance tout doucement, mais voilà, je commence à. Je pense que je commence à voir un petit tunnel avec une petite lumière pour pouvoir peut-être reprendre mon travail en toute sécurité.
On vous le souhaite évidemment, Nathalie, Marlène Schiappa. On entend dans ce témoignage qu'en fait, il ne faut jamais abandonner le combat.
Oui, absolument. Merci en tout cas de partager ça avec nous. Et bravo effectivement d'avoir mené ce combat qui est extrêmement difficile et qu'on entend vous avez mené, je pense, avec beaucoup de courage. Je voudrais dire... aux femmes qui nous écoutent et qui sont peut-être dans la situation que vous avez connue, qu'elles ne sont pas seules. D'abord, il existe le Défenseur des droits, qui est dirigé par Jacques Toubon, avec qui j'ai signé une convention cet été. Il dispose de larges moyens d'enquête, de coercition, donc il ne faut vraiment pas hésiter à le saisir pour tout ce qui concerne peut-être toute discrimination liée au genre, liée au sexe sur le lieu de travail. Ensuite, peut-être rappeler qu'il y a des obligations légales et que l'inspection du travail est là aussi et peut-être appelée pour venir constater ces faits et pour intervenir. C'est pour ça qu'elle existe aussi. Et enfin, rappeler que les syndicats aussi, c'est aussi une de leurs raisons d'être, en tout cas, de représenter les salariés et de sortir de ce face-à-face salarié supérieur hiérarchique qui est extrêmement difficile. Quand on est victime de harcèlement sexuel par un supérieur hiérarchique, on peut souvent se sentir seul. Pour sortir de cette solitude, eh bien, les syndicats existent. Donc avec la ministre du Travail, nous les avons saisis pour leur demander qu'ils nous fassent part de leurs pratiques. J'ai reçu notamment Laurent Berger de la CFDT qui a créé un guide d'entretien pour que tout délégué du personnel puisse écouter, recueillir la parole de la femme ou de l'homme qui a été victime de harcèlement sexuel au travail et puisse ensuite judiciariser cela pour faire condamner la personne, quelle que soit sa position au sein de l'entreprise.
Merci de nous avoir accompagnés ce midi, Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée d'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc, discours et mesures annoncées demain à l'Élysée par le président Emmanuel Macron. Vous avez à disposition un dossier complet sur notre site rtl.fr. Vous n'hésitez pas.